Gloire à Dieu. On continue la petite étude dans Éphésiens, dans Philippiens, pardon. On regarde, on est encore dans le chapitre 1. Ce soir, on va voir les versets 9 et 10. On va voir là-dedans que dans Philippiens, c'est une intercession, mais pour les autres personnes qui vivent des choses puis qu'on s'en aperçoit. C'est ça qui est le but du message de ce soir, que l'apôtre Paul nous parle dans cette épître-là au verset 9. Les gens de la ville de Philippe, c'était des gens remplis d'amour. Ça devait être une jeune église, le monde était enflammé, ils aimaient le Seigneur, ils étaient soudés ensemble, puis c'était remarquable leur amour comparativement souvent comme... Paul, quand il commentait pour les Corinthiens, par exemple, là, la chicane t'a pogné des divisions pour toute la patente. Là, celle-là, c'est un des chrétiens remplis d'amour. Mais aux yeux de Paul, il manquait quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'une église qui vit dans l'amour, qui manque pas rien. Mais l'apôtre Paul l'a remarqué, puis il mentionne dans la lettre au verset 9. Il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, parce qu'il était déjà une église remplie d'amour, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » On va voir là-dedans encore des points importants pour la vie chrétienne, la connaissance des choses de Dieu, puis l'intelligence, c'est comment mettre en pratique les choses de Dieu. L'église, pourtant, c'est une église remplie d'amour, mais il dit, dans ses prières, je prie que cet amour-là, elle augmente, mais en connaissance puis en intelligence, pour aimer la bonne façon selon Dieu. Aimer le Seigneur, c'est le moteur de la vie chrétienne. Mais comment aimer selon le Seigneur? Parce que dans le monde, quand tu parles d'amour, ça parle quasiment juste de sexe. C'est pas l'amour dans le Seigneur. Le sexe, c'est l'amour eros en grec, c'est ça érotique, c'est la sensualité, les choses charnelles. Mais là, on parle d'aimer avec l'amour du Seigneur, c'est l'agapé, c'est rempli de l'esprit, mais dans l'amour du Seigneur. Est-ce que l'on remarque, la question que je pose en commençant, est-ce que l'on remarque qu'il manque quelque chose dans la vie des autres? Lui, l'apôtre Paul l'a remarqué, il dit ce que je demande dans mes prières, ça veut dire qu'il a remarqué qu'il manquait quelque chose dans cette église-là, puis il mentionne en plus. Est-ce que nous, on est capable de remarquer des choses qui manquent dans la vie des autres? Oui ou non? Oui, on est capable. Souvent, c'est plus facile de remarquer ce qui manque chez les autres avant de remarquer ce qui nous manque quelque chose. C'est plus facile de trouver qu'il manque de quoi dans la vie des autres. Puis là, Jésus, il a dit quelque chose là-dessus, c'est au niveau d'examiner ce qui se passe dans la vie des autres. Dans Luc, au chapitre 6, le verset 41. Puis là, on va méditer ce verset-là en même temps. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus, là-dedans, dans ce verset-là, il reproche pas aux gens, il reproche pas qu'on voit quelque chose dans les yeux des autres. Il reproche pas ça dans ce verset-là. Il reproche pas le fait qu'on peut examiner les gens puis trouver qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie des autres. Jésus, il critiquera pas l'apôtre Paul dans le verset qu'il vient de mentionner. Jésus, ce qu'il critique dans ce verset-là, il dit, c'est pourquoi que tu vois pas que toi t'en as un avant, un problème dans ton œil. C'est ça qu'il critique. Puis il dit, comment tu peux dire à l'autre, laisse-moi enlever ce que t'as comme poutre, puis tu sais même pas que t'en as une dans ton œil. Ça veut dire que c'est quand tu penses que tu es capable de régler le problème des autres que ça marche pas. C'est là le problème. L'apôtre Paul, il a pas dit, laissez-moi enlever votre problème. C'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je prie Dieu que Dieu il arrange ce problème-là, qu'il vous ajoute quelque chose, s'il manque quelque chose, ou s'il y a de quoi de trop, que Dieu vous l'enlève. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas le pouvoir de changer la vie des gens. Mais si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie de quelqu'un, on peut prier. Comme l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'on voit qu'il manque quelque chose ou quelque chose, qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, parce que là, Jésus nous dit, commence par regarder ta vie, apprends dans ta vie comment ça marche à enlever quelque chose. On a toutes des quelque chose à enlever et à ajouter dans nos propres vies. Puis la première place qu'il faut travailler, c'est en se regardant, puis en trouvant la solution, comment est-ce qu'on fait pour sortir de nos ce qui marche pas. Ça veut dire que là, on va tous réaliser, ça prendra pas grand temps, qu'on n'est pas capable même de changer nous-mêmes dans des affaires. Ça prend l'aide du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut modifier notre vie. Si on s'examine, qu'on commence à... Là, on commence à prier pour nous-mêmes. Là, on s'aperçoit que c'est Dieu qui peut changer quelque chose. Si notre vie change, c'est toute la gloire à Dieu. Là, après ça, quand tu as réussi à enlever tes poutres, pas parce que toi, tu es enlevé, parce que tu as compris comment ça marche, faut que tu demandes à Dieu de les enlever. Puis là, tu vas réussir avec le temps, puis avec la patience, puis avec bien de la prière, à changer certaines choses dans ta vie. Là, tu vas être capable d'aider les autres en les enlignant sur le bon bord. On va prier Dieu ensemble pour que Dieu enlève cette chose-là. Parce que c'est pas moi qui peux m'en enlever pour moi, puis je peux pas m'en enlever aussi pour dans la vie des autres. Il faut apprendre à se confier dans le Seigneur pour pouvoir avoir nos victoires. Fait que l'apôtre Paul, lui, avait compris ça, puis c'est Dieu qui nous transforme. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, ça dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. » On voit que la sanctification vient de Dieu. Nous, ça nous dit de chercher la sanctification, mais c'est pas nous qui nous font aboutir, qui va nous faire aboutir dans une vie sanctifiée. C'est le Dieu de paix qui peut nous sanctifier. Le travail de changement dans nos vies, c'est rien que Dieu qui peut le faire. Fait que Paul l'avait enseigné, ça dans un autre épître, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, puis que le but en réalité, c'est que toute notre être, notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il rajoute un autre verset, au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, puis c'est lui qui le fera. » Dieu, il est fidèle, puis il dit, « Faut que tu arrives à être saint, purifié, transformé dans ta vie pour le jour où on va rencontrer Jésus. » Puis il dit, c'est, Dieu est fidèle, puis c'est lui qui le fera. Ça veut dire, il faut vraiment s'appuyer pour toutes les choses qu'on a besoin dans la vie chrétienne, c'est s'appuyer sur Dieu. Paul, il savait comment enlever une poutre. Pour ça qu'il travaillait de la bonne façon quand il s'est adressé à eux autres. Il savait comment que ça s'enlevait les choses. C'est lui qui l'a expliqué que c'est Dieu qui est fidèle, qui nous change. Il a commencé par le début pour les Philippiens. Le début, c'était la prière. Là, ce qu'il disait aux Philippiens, au verset chapitre 1, verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » C'est une prière. C'est par la prière. C'est pour ça qu'il faut développer un esprit de prière, puis toujours revenir en présentant nos besoins à Dieu, parce qu'il y a juste Dieu qui peut nous changer. Là, le deuxième point qu'on regarde dans ce verset-là, quel est notre intérêt de voir les autres chrétiens grandir dans le Seigneur? Parce que souvent, on écoute nos prières, puis on prie plus souvent pour nos besoins personnels que prier pour les besoins des autres. Je parle pas quand un autre il fait la prière, là je vais l'appuyer, mais en général, c'est rare que moi je vais prier pour dire d'un autre, Seigneur, remplis-les de ta connaissance, remplis-les de ton intelligence, remplis-les de tes dons spirituels, ou remplis l'autre, de donner une guérison à l'autre. Priez pour les autres. Est-ce qu'on a de l'intérêt aussi de voir les autres être exaucés? Dieu veut développer ça aussi. Quand on dit qu'on est un solide assemblage, qu'on travaille pour tout le monde, dans le sens où on travaille pour l'édification du corps, ça veut dire qu'il faut que je commence à regarder plus aussi aux besoins des autres. C'est pas mal d'aller voir les problèmes. C'est juste, faut pas que ça, on pense que c'est nous qui va échanger. Faut juste les présenter à Dieu. Comme Paul, quel effort je suis prêt à faire pour aider les autres à grandir dans le Seigneur? Lui, il priait, il intercédait. Dans l'Église, nous sommes un seul corps, c'est comme une équipe. On doit apprendre à travailler ensemble et à travailler aussi pour les autres. C'est ça qui est le but, pas juste pour nous-mêmes. En réalité, le but, c'est l'intercession pour les autres. C'est aussi un ministère. Tu sais, des fois, on cherche un ministère, je sais pas quel ministère que j'ai, mais juste prier pour les autres, c'est déjà un ministère. Commencer à intercéder, demander au Seigneur que Dieu fasse telle et telle chose dans les autres, c'est un ministère, ça en prend des intercesseurs. Il en manque. C'est sûr qu'il en manque dans tous les ministères, là, parce qu'il n'y a jamais assez. On est le pays quasiment le moins développé au niveau spirituel. Il y a moins de conversions, il y a pas d'église partout. On est une province en développement. Mais il manque des intercesseurs. Puis l'intercession, c'est un ministère, la même chose qu'un autre. Un autre ministère. C'est aussi apprécié, puis même, c'est un des ministères les plus importants, parce que même l'avancement d'une église dépend des intercesseurs, de ceux qui prient pour l'avancement. Quand il dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela qu'une entière persévérance, priez pour tous les saints. » On est tout encouragé à prier pour les autres. C'est ça qu'il faut développer. Paul, il avait mis sa main à la charrue, puis il s'est engagé dans l'œuvre du Seigneur, puis il était prêt à en payer le prix. Il prenait du temps pour intercéder. Puis il dit dans d'autres lettres, il priait pour toutes les églises qu'il connaissait. Il priait pour toutes les églises. Toutes les églises lui faisaient comme un fardeau sur lui. C'est un fardeau qu'il portait. Il dit, ce qui manque des souffrances de Christ, c'est que je l'achève dans ma chair. Lui, il portait les églises comme si c'était à lui. Il est engagé à 100%. Dans Colossiens 1, 24, Paul il a aussi dit, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Fait que, il voyait que, oui, Jésus, il est mort sur la croix, il a souffert pour l'Église, pour qu'elle puisse être là. Mais les pionniers, ceux qui travaillent, ceux qui mettent de leur vie, il y en a qui ont renoncé à tout pour être dans le ministère. Puis, ce qu'ils font comme œuvre, puis souffrance que ça l'implique, mais ils font pour le Seigneur. C'est comme si le Seigneur continuait à souffrir sa terre à travers de lui, puis il y a de ses souffrances à lui pour faire avancer le royaume de Dieu. Paul, lui, il s'est adonné à plein au niveau de la prière et de l'évangélisation, bien sûr. Il y a une chose importante qui manquait pour les Philippiens. Là, on regarde le point pour lequel Paul priait. La connaissance puis l'intelligence selon Dieu. Les petites brebis, là, les nouvelles brebis, faut pas qu'ils restent des petites brebis. C'est comme les enfants, tu commences, tu acceptes le Seigneur, tu es un bébé dans le Seigneur. Tu dois pas rester bébé. Tu vas finir par devenir adolescent dans le Seigneur, tu vas venir à être un homme et une femme de Dieu, des adultes spirituellement, à la stature de Christ, c'est le but. Puis pour y arriver, l'amour est très important, c'est ça qui nous tient liés les uns avec les autres, l'amour, mais la connaissance des choses de Dieu est importante, Puis l'intelligence, c'est de savoir comment mettre en pratique les choses de Dieu. C'est encore important, puisque c'est ce qui manquait aux Philippiens. Il y avait l'amour, mais ces gens-là manquaient de la connaissance des choses de Dieu, puis de l'intelligence. Puis Paul y priait pour ça. Connaître les choses de Dieu, puis savoir comment les mettre en pratique, c'est des choses très importantes dans la vie chrétienne. Il y avait de l'amour pour le Seigneur, mais ça prend plus que cela pour persévérer dans le Seigneur. Oui, tu peux dire « j'aime le Seigneur », mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Pourquoi qu'on a à suivre le Seigneur? C'est plus le pourquoi. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous pas que vos noms, que vous avez l'autorité ces démons, là. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. » Pense au fait que tu es sauvé, tu as la vie éternelle, puis toutes ces choses-là, faut les savoir. C'est ça que ce qu'on comprend qui devrait être notre force. C'est ce qu'on comprend qui doit être notre force, et non pas nos émotions sur l'amour. Une émotion, ça peut changer. Tu peux être excité pour le Seigneur, là, aujourd'hui, puis être scindante demain par d'autres choses, puis que là, t'as pas l'émotion cette journée-là. C'est pas les émotions qui vont te garder jusqu'à la fin. C'est qu'est-ce que tu comprends, puis c'est qu'est-ce que t'as la foi dans ce que t'as compris, parce que c'est des révélations, là, des vérités de ce que Dieu t'a dit, puis c'est ça qui va ta foi dans ce que tu comprends, qui va t'amener à persévérer, puis à être capable d'endurer au bout de tout ce que t'auras enduré dans ta vie. Fait qu'il faut de la connaissance. Je te dis pas que c'est juste de la connaissance non plus, parce que ça prend de l'amour aussi dans la vie chrétienne, mais ça, si eux autres, il y avait de l'amour, mais il manquait la connaissance. Parce que peut-être c'est une nouvelle église, peut-être qu'il n'y avait pas encore de pasteur dans cette église-là, puis il fallait qu'il y ait un ouvrier qui soit là pour commencer à leur enseigner toutes les bases de la vie chrétienne. C'est pour ça que Paul priait là-dessus, puis il leur a fait connaître ces choses-là, en leur envoyant cette lettre-là. Pourquoi que c'est important de connaître les choses de Dieu? Mais il y a d'autres raisons que juste persévérer. Si tu aimes le Seigneur, puis si tu te nourris de fausses doctrines, ça va t'éloigner du Seigneur. En 1 Timothée 4.1, c'est pas pour rien que Paul y écrit ça, qui dit, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ça parle à nous, aujourd'hui, pas dans plus tard, c'est déjà là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. » Ça veut dire si la personne n'a pas la connaissance qu'elle est supposée d'avoir pour rester ferme dans les voies du Seigneur, elle va entendre parler des choses qui sont pas bibliques, puis elle va adhérer. Elle va se mettre à accepter les choses non bibliques parce que la connaissance n'est pas là. Peut-être qu'elle a l'amour, mais elle ne sait pas que c'est pas correct, ce chemin-là. Elle embarque dans ces fausses doctrines-là, puis quand tu acceptes les doctrines démoniaques, tu reçois aussi les esprits qui les ont pondus, ces doctrines-là. T'es pogné. Si tu te mets à dire, moi je crois qu'est-ce que l'Église catholique dit, puis je crois qu'on le salue par les sacrements, puis toute la patente, puis commence à prier Marie, là, même si t'aimes Jésus, mais tu te mets à prier Marie, puis tu te mets à penser que tu as le salut par les sacrements, c'est sûr que tu vas te perdre. Il manque la connaissance qui va te garder dans la connaissance de Dieu, puis tu sais que le salut pas par les sacrements, puis tu sais que t'as pas à prier les morts, tu pries Dieu seul, puis le seul qui est ressuscité, c'est Jésus, son Fils, puis c'est lui qu'on passe par lui, il n'y a pas d'autre médiateur. Quand tu le sais, tu te détourneras pas. La connaissance est importante. Un autre point aussi, si dans cette même lignée-là, si tu marches dans l'amour sans discernement, selon la parole, tu risques de devenir écumunique. Tu peux aimer, là, puis t'aimes, puis t'as ton cœur rempli d'amour, là, puis tu vas te mettre à aimer les autres religions pour en penser qu'on est tous frères parce qu'on s'aime tous. Tu vas devenir écumunique. Écumunique, là, c'est un rassemblement de toutes les religions. C'est que tu oublies qu'il y a une parole qui est là, qui est la base de la foi, puis ta tasse, la parole, on n'a plus besoin de suivre la parole, on s'aime toutes dans toutes les religions, puis on est tous frères, puis on s'en va tous au ciel. C'est ça, les communistes. Une unification des religions. Mais si tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu a dit, tu vas devenir œcuménique. Tu verras pas la différence entre les catholiques et les évangéliques. Tu verras pas la différence entre les témoins de Jéhovah et les évangéliques. Tu verras pas la différence. Tu verras parce que tu ne le sais pas. Par ignorance, tu peux te perdre. Le peuple périt faute de connaissance. Puis dans ce verset-là, quand c'était dit dans Osée, au chapitre 4, le peuple périt faute de connaissance, mais c'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance en plus. Puis Dieu a dit, moi, vous rejetez, vous autres, avec. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. À un moment donné, il y en a qui disent, moi, j'ai pas besoin d'apprendre ce qui est dans la Bible, je veux aimer. Ils préfèrent dire, on s'aime, mais on oublie ce que Dieu a dit, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Non, c'est complètement le contraire. Adhérons à ce que Dieu a dit, puis laissons faire de bécoter tous les autres qui suivent pas la même pensée. C'est de même que les apôtres pensaient. Vous allez voir dans l'autre verset. Si tu marches dans l'amour sans discernement selon la parole, tu risques de devenir œcuménique. Puis on voit ça dans 2 Jean 1, chapitre 9. Chapitre 1, verset 9. Ça nous dit dans ce verset-là, c'est l'apôtre de l'amour qui dit ça. C'est appelé l'apôtre de l'amour. Puis il dit, quiconque va plus loin, puis il demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Ce gars-là, c'est l'apôtre de l'amour, puis il classe ça bien clair. Quiconque va plus loin, puis il demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Puis il dit, celui qui demeure dans cette doctrine-là, dans la doctrine du Seigneur, a le Père et le Fils. Ça, tout ça passe au niveau de ce que tu crois et non pas de ce que tu ressens. C'est pas l'amour qui prime, c'est connaître le chemin, puis d'y croire, puis de rester dedans. C'est ça qui est la vérité. Puis il continue, il n'a pas fini là. Il dit, si quelqu'un vient à vous qui n'apporte pas cette doctrine, là, la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison, puis ne lui dites pas salut. L'apôtre de l'amour qui dit, tasse les gens qui veulent pas admettre ce que tu crois. Quand tu veux suivre la Bible, tu suis la Bible. Toutes les autres religions, c'est pas de l'écuménisme qu'il faut. C'est, retouille-les pas, encourage-les pas. Y a-t-il un amen à quelque part? Amen. Voyez-vous que l'amour de Jésus, comment je prouve à Jésus que je l'aime? Jésus dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Puis là, mon Père va t'aimer. C'est la priorité bâtie sur ce qui est écrit. Le reste, là, les faux, faut tasser ça. C'est de même que ça marche, c'est pas moi qui ai inventé ça. Puis là, ils vont dire, c'est Dieu. Mais c'est ça qui est écrit, j'ai pas dit rien d'autre que ce qui est écrit. C'est de même que Dieu veut que ça marche. Sinon, les gens, ils tassent la Bible, puis commencent à aller assister à l'Église catholique, aux messes qu'il y a là. Ils vont aller au temple de témoins de Jéhovah. Ils vont aller dans les autres religions, puis pensent que Dieu veut qu'on s'aime. Non, pas du tout. Il dit, ne recevez-les pas, puis dites-leur même pas salut. Parce que celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est ça que ça dit dans l'autre verset. Rajoutez à ça. Tu les encourages dans le mensonge. Ils se sentent encouragés du fait que toi, tu dis que c'est ton frère, puis en fait, en réalité, il est perdu, ce gars-là, parce qu'il ne suit pas la doctrine de Christ. Puis là, il est perdu, puis toi, tu t'en vas l'encourager pour lui dire que c'est ton frère, mais en réalité, tu l'encourages à rester comme qu'il est, puis qu'il va se perdre. Paul y ajoute aux Philippiens que la connaissance et l'intelligence nous donnera du discernement afin qu'on soit pur, irréprochable. Tu sais, Dieu, il dit qu'il va nous amener lui-même, il va nous sanctifier pour nous rendre purs. Mais, dans Philippiens, quand il dit, Je prie que Dieu vous donne de la connaissance et puis de l'intelligence. L'autre verset après, il dit, quand tu vas l'avoir, cette intelligence-là, cette connaissance-là, c'est pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Ça veut dire que la compréhension, comprendre comment ça marche dans la vie chrétienne en lisant les Écritures, faut que vous ayez ça dans vos vies, ce que Paul dit aux Philippiens. Faut que vous ayez ça dans vos vies, ça va vous donner du discernement, puis c'est de même que vous allez être pur puis irréprochable. Ça veut dire, tu t'as beau aimer, si t'as pas la connaissance puis l'intelligence, tu marches dans sans discerner ce qui se passe, puis là, tu marcheras pas dans une manière pure puis irréprochable. C'est important pour les chrétiens de lire la Bible, puis juste la Bible, puis toute la Bible. On peut dire amen. La prière de Paul amènera les chrétiens dans une fermeté puis d'une solidité qui leur permettra de persévérer dans le Seigneur. Amen.